du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Pour certains, c'est une addiction. Pour d'autres, c'est une malédiction. Le pétrole est le sang de la révolution industrielle. C'est simple, il est partout depuis que l'ingénieur américain Edwin Drake a foré le premier puits en Pennsylvanie en 1859. Depuis 150 ans, cet hydrocarbure pas cher a façonné nos modes de vie sous la forme de carburant, de plastique, d'engrais, à tel point, et nous l'avons vu récemment, que dès que son prix baisse, l'économie mondiale tremble. Contrôler le pétrole, c'est donc un peu contrôler le monde. Voilà pourquoi, depuis des décennies, l'exploitation de l'or noir a joué une part essentielle dans la géopolitique mondiale. Mais aujourd'hui, c'est un sevrage qu'il faut entamer, et ça, c'est pas gagné.
Manche de brosse en plastique.
Pétrole.
Vernis à ongles, tablette, flacon.
Pétrole.
Manteau imperméable.
Pétrole.
Bas de nylon.
Pétrole.
Nous vous invitons à nous accompagner à la découverte de ce pétrole qui est devenu, directement ou indirectement, et bien souvent sans que vous le sachiez, un élément vital de votre existence quotidienne.
Bonjour Mathieu Ozano.
Bonjour.
Depuis 2010, vous écrivez les chroniques de la fin du pétrole sur le blog Oilman hébergé par Le Monde, et vous venez de publier Or Noir, la grande histoire du pétrole aux éditions de La Découverte. 700 pages qui se lisent, je l'avoue, comme un polar. Alors dès l'introduction, vous écrivez que l'énergie du pétrole a été comme offerte à un moment clé de l'essor de notre espèce.
La notion d'or noir est pas une notion vaine. En fait, aucune autre industrie n'est capable d'offrir autant de services, j'allais dire pratiquement naturellement, à l'humanité technique. Autant de services, on peut penser au carburant, à la pétrochimie, mais autant de profits également, puisque la nature même du pétrole, le fait qu'il s'est offert, demain les choses vont peut-être un peu changer, mais qu'il s'est offert à l'humanité, presque, j'allais dire, naturellement, il remonte de sa propre pression, on fait un trou dans le sol, il n'y a pas besoin, ou il y a très peu besoin d'ouvriers, et une fois que le trou est fait, on a ce liquide qui s'écoule naturellement pendant des années, des décennies, si on a de la chance. Cette propriété-là du pétrole induit sa capacité à générer du profit comme aucune autre industrie.
Alors vous nous rappelez dans votre livre les débuts de l'industrie du pétrole au milieu du 19e siècle, c'est assez cocasse hein, d'ailleurs, il y a des, notamment à Bakou là, qui est la capitale actuelle de l'Azerbaïdjan, il y a des forages qui ont jailli à plus de 60 mètres de haut, on n'arrivait pas à les arrêter, ça coulait pendant 4 jours, ça fait rêver aujourd'hui.
Oui, les temps ont changé, l'abondance du pétrole a longtemps surpassé les besoins d'une humanité qui en était pourtant avide. C'est ça qui est assez fascinant de mon point de vue. Effectivement, aujourd'hui, les temps ont changé. Avec un jeu de mots, on peut dire que l'industrie de l'or noir a commencé à manger son pain noir. On y reviendra peut-être.
Oui, on y reviendra tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'est que ce pétrole, finalement ?
Ça vient du latin petra oleum, c'est l'huile de pierre. Donc c'est une huile qui jaillit de la roche. C'est un hydrocarbure, donc ce sont des molécules de carbone et d'hydrogène qui ont pour propriété principale d'être très facilement inflammables et dont on s'est servi effectivement comme le carburant le plus facile à la disposition de l'humanité. Comment est-ce que c'est généré ? En fait, le pétrole qu'on exploite aujourd'hui s'est formé géologiquement au temps des dinosaures, il y a quelques centaines de millions d'années. C'est du plancton qui a été stocké en quelque sorte dans les couches sédimentaires pendant les temps géologiques et qui s'est transformé sous la pression et la chaleur du sous-sol sous sa forme qu'on exploite aujourd'hui dans les puits de pétrole.
Et en 150 ans, donc l'humanité aurait pompé à peu près la moitié de ce que la nature a mis donc des millions d'années à fabriquer. Alors, c'est vrai que on voit dans votre livre que ça démarre, donc je l'ai dit, au milieu du 19e siècle, un peu avec deux pôles, hein. D'un côté, les États-Unis, grosse puissance pétrolière, et en face, j'ai envie de dire, Bakou, l'Azerbaïdjan, donc la Russie, enfin cette partie est de l'Europe.
Oui, il se trouve que les deux grandes puissances du 20e siècle sont les deux premiers producteurs pétroliers mondiaux. C'est sans doute pas anodin. c'est une des thématiques que je développe dans le livre, et c'est pour ça qu'on l'a appelé or noir. C'est que les profits du pétrole, donc je disais que c'est une industrie qui génère du profit comme nul autre n'en est capable, ces profits de l'or noir ont eu un rôle structurant fondamental dans l'émergence de la puissance américaine en général, et de Wall Street en particulier, puisque je raconte dans le livre que les deux grandes banques américaines, qui sont encore parmi les deux plus grandes banques du monde, la Chase Manhattan et ce qui est devenu Citibank, sont des banques Rockefeller, c'est-à-dire des banques issues des profits de la compagnie fondée par John Rockefeller en 1870, dont on connaît tous le nom, qui s'appelle la Standard Oil, aujourd'hui Exxon, puisque Exxon, c'est en fait SO, et SO, c'est pour Standard Oil.
Alors justement, on assiste aussi au cours de cette deuxième moitié du 19e et du 20e siècle à l'essor de véritables dynasties. Alors vous parlez des Rockefeller, en effet à la base il y a John Rockefeller qui comprend très très vite la puissance économique du pétrole et qui en fait un empire. Et jusqu'à aujourd'hui, les Rockefeller sont impliqués dans le commerce du pétrole.
Oui, David Rockefeller en particulier, le petit-fils, l'un des petits-fils de John Rockefeller, a été le patron de la Chase Manhattan pendant de très nombreuses années et a eu une influence sur Washington, sur la diplomatie américaine en particulier. On estime que c'est l'homme le plus décoré du monde, David Rockefeller. Et son frère, Nelson, a tout de même été vice-président américain. C'était le vice-président du président Ford, président américain des années 70.
Alors, Rockefeller et pétrole, c'est une association qu'on fait assez facilement. Celle que l'on fait un peu moins, c'est les frères Nobel et le pétrole. C'est un peu moins connu.
Oui, l'un des frères d'Alfred Nobel. Alfred Nobel, c'est le génial inventeur, génial chimiste qui a donné son nom au prix Nobel bien connu.
Alors qu'il a inventé la dynamite, mais bon.
Oui, la dynamite qui est en partie un dérivé de pétrole d'ailleurs, la TNT plus exactement. Ses frères ont été les rois du pétrole de Bakou. Bakou étant comme vous disiez, le deuxième grand pôle originel de développement du pétrole avec le pétrole de la Pennsylvanie, celui exploité par John Rockefeller.
Et ça va durer longtemps, hein, l'investissement des frères Nobel dans le pétrole.
Oui, alors ils seront un peu balayés par la révolution russe, par les premiers prémices de la révolution russe en 1905. Mais c'est surtout la dynastie Rockefeller qui est continuellement liée au profit du pétrole. Et il y a une autre dynastie, c'est celle des Rothschild. Les Rothschild ont eu l'intelligence d'investir très tôt dans le pétrole, ont participé notamment au développement du pétrole de Bakou avec les frères Nobel. Les Rothschild ont eu des intérêts immenses dans le pétrole, notamment à travers la Shell et ce qui est devenu la Royal Dutch Shell et ce qui est devenu Total. Et en particulier, il y a eu un épisode que je raconte, c'est le partage du pétrole d'Algérie au moment de l'indépendance, dans lequel les intérêts de la banque Rothschild, représentés par un homme qui va devenir premier ministre français qui s'appelle Georges Pompidou, ces intérêts ont été une pierre d'achoppement ultime dans les négociations entre le FLN et le régime gaulliste.
On va y revenir là aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que le pétrole, donc, ce sont des célèbres dynasties qui en plus s'entendent assez facilement entre elles. On en parle juste après une petite pause musicale.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
What do you want me to do? I will beg and cry till I feel through.
In my dreams,
I've been told I was mad if I'm a good young man. Still walk in the spot I'm sad. Tell me, what do you mean to do? Though my heart is so
got a friend.
La véritable histoire, l'histoire secrète du pétrole, commence en Écosse, au cœur des Highlands, un 28 août 1928, au château d'Inchnacarry. Trois hommes ont rendez-vous, un Hollandais, un Américain et un Britannique. Le Hollandais Henri Deterding, un homme implacable et déterminé que l'on surnomme le Napoléon du pétrole. Des jungles de Sumatra où il exploite un gisement, il va s'allier à Marcus Samuel, un riche armateur et négociant en coquillages exotiques. Les deux hommes fondent la Royal Dutch Shell. L'Américain Walter Teagle, il représente la Standard Oil Company, fondée par John Rockefeller à 31 ans, la future Exxon. Puis, transport, raffinage, distribution, tout est contrôlé par la Standard. Une pieuvre tentaculaire. Sir John Cadman, anglais, directeur de l'Anglo-Persian, la future BP, créée sur les pétroles de Perse. Navires, avions, tanks, le pétrole est devenu le sang de toutes les batailles. La nouvelle industrie automobile se développe et la Ford T se vend par millions. Le monde a soif de pétrole et une lutte sans merci s'engage entre les compagnies. Une concurrence qui déclenche une instabilité du marché. Il est grand temps de s'entendre. Elle s'appelait la Royal Dutch Shell, la Standard Oil Company et l'Anglo-Persian. Aujourd'hui, Shell, Exxon et BP. Elles sont les plus grandes compagnies pétrolières du monde. Retour au château. Le gotha du pétrole est à table. La réunion secrète peut commencer. Henri Deterding déclare « Il est temps d'exploiter fraternellement et le plus profitablement possible les ressources pétrolières mondiales. Zone d'exploitation, prix du transport, prix de vente, tout doit être partagé. » Au petit matin, l'accord est trouvé, un pacte secret et scellé, sans signature. Un cartel de pétroliers se prépare à dominer le monde.
Ce document est un extrait de la série « Le secret des sept sœurs » de Frédéric Tonnelly, diffusé sur France 5. Alors, Mathieu Ozano, cet accord d'Inchnacarry sera élargi hein, par la suite aux 15 plus grandes compagnies américaines. Il durera quoi, plus de 40 ans ?
On suppose qu'il a perduré jusqu'en 1973, au moment du premier choc pétrolier, au moment justement où le marché se retourne, c'est-à-dire qu'il n'est plus dominé par les consommateurs, mais par l'offre, c'est-à-dire que pour la première fois en 73, le pétrole n'est plus assez abondant pour assouvir totalement les besoins de l'humanité. Ce cartel créé en 1928, c'est un cartel qui est justifié par ceux qui l'ont constitué, effectivement les plus grandes compagnies occidentales à l'époque, qui se partagent jusque dans les moindres détails, y compris le marketing. On sait que dans les accords d'Inchnacarry, des accords qu'on appelle aussi les accords tels quels, ça veut dire on laisse les choses telle quelle, c'est-à-dire aucune compagnie ne va attaquer les intérêts des autres. Dans ces accords sont également précisés le fait que on va limiter la réclame, on va limiter la publicité, pour ne pas précisément déstabiliser l'équilibre, l'espèce de paix séparée qui est décidée à ce moment-là entre les grandes compagnies anglo-saxonnes.
Mais en gros, c'est un partage du monde.
C'est un partage du monde. C'est un partage du business du pétrole jusque dans ses moindres détails à travers le monde entier, des puits jusqu'aux stations-service.
Et là, on ne se fait plus de concurrence, donc on stabilise les prix.
Voilà, on s'entend pour geler les rapports de force entre les uns et les autres. Et ce qui est intéressant, à mon sens, c'est pas une exception. À l'époque, les capitalistes se partageaient, trouvaient ce genre d'accord dans toutes sortes de filières. Ce qui est intéressant, c'est que le cartel d'Inchnacarry est le plus sophistiqué et le plus puissant. C'est celui qui va perdurer dans le temps le plus longtemps. C'est celui qui bénéficie des relais diplomatiques et des relais politiques à Washington, notamment, mais également à Londres, les plus puissants. Et la raison d'être fondamentale, et ça, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'écologiste, la raison d'être fondamentale de ce cartel, c'est qu'il y a une logique économique tout à fait naturelle derrière, c'est que la concurrence, l'état de concurrence, ne prévaut que lorsque les ressources sont rares. Or, le pétrole est surabondant. C'est ça qui est fascinant, c'est que l'humanité aura eu des besoins exponentiels de pétrole au cours du XXe siècle, mais la nature lui en fournissait encore davantage. C'est-à-dire que la justification qui est donnée aux accords d'Aknakari, quand on va les révéler, quand le Parlement américain va les révéler au cours d'enquêtes parlementaires dans les années 70, ça veut dire mais on pouvait pas faire autrement parce que il y avait tellement de pétrole à disposition que si on s'était fait la concurrence, on serait tous morts. Voilà. Et moi, ça, je trouve ça intéressant parce que un des fils rouges de cette histoire de l'abondance énergétique que j'ai voulu raconter, c'est précisément que on s'est beaucoup fait la guerre autour du pétrole lorsqu'il était surabondant, y compris dans les phases de, dans la phase de croissance vertigineuse qu'on appelle les Trente Glorieuses. Je me demande ce qui va se passer le jour où il sera un petit peu moins abondant, ce pétrole.
Et on y arrive, justement, on en parlera tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que les Américains, hein, cela dit, dans le monde, quand même, même si on parle de pétrole. Et du coup, cet accord a eu des conséquences très importantes pour les autres exploitants.
Les Anglo-Saxons, puisqu'en fait, ce cartel est un cartel britannique, enfin, avec la Shell, BP et américain, avec les grandes, ce qu'on appelle les majors américaines, donc Exxon, ce qui va devenir Mobil, Texaco, Gulf Oil. Cette cartélisation industrielle va avoir des conséquences géopolitiques majeures, dont on vit encore les conséquences aujourd'hui.
Par exemple,
les pétroliers vont une fois que les ressources américaines de pétrole ne vont plus suffire pour alimenter la croissance mondiale, à partir de 45, un peu plus tôt, mais ça devient vraiment saillant à partir de 1945, les pétroliers occidentaux vont s'intéresser, bien entendu, à l'endroit de la planète où il n'y a pas d'industrie, mais par contre, il y a beaucoup de pétrole, le Moyen-Orient. Et ce cartel d'Aknakari va donner les conditions du partage du pétrole de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, entre autres. C'est-à-dire que c'est selon les termes de cet accord de 1928 que vont être partagées les ressources pétrolières fabuleuses qu'on va mettre au jour petit à petit à partir des années 50, complètement au jour, puisqu'on commençait à l'exploiter dans les années 30, mais on a réalisé à quel point le Moyen-Orient disposait des plus belles ressources planétaires, vraiment après la Seconde Guerre mondiale, à partir précisément du moment où la croissance économique aspirait un peu comme une pompe, plus de pétrole que on pouvait le concevoir avant cette grande phase d'expansion des années 50-60.
Évidemment, quand on fait la grande histoire du pétrole, on fait des sauts dans l'histoire, mais avec ce que vous venez de dire, évidemment, ça jette un regard particulièrement intéressant sur la guerre en Irak, par exemple.
Moi, je pense qu'il y a une continuité quand on parle de puissance. Si on parle de puissance économique, si on parle de puissance militaire, littéralement, la puissance est une affaire d'énergie. Puissance, c'est l'énergie par rapport au temps. Et les pétroliers, les politiques, en particulier aux États-Unis, qui s'intéressent à l'accès au pétrole, comprennent très tôt que l'effectuation de la puissance politique, économique, militaire est fonction de la capacité à mettre la main sur des ressources en énergie adéquates pour effectuer cette puissance.
Garantir un flot ininterrompu de pétrole aux ménages américains est essentiel pour toute personne qui veut garder sa place au gouvernement. Il faut comprendre la relation entre le pétrole et la vie américaine afin de comprendre comment les hommes politiques voient leur job et comment ils envisagent leur propre rôle, celui d'assurer une offre de pétrole à la hauteur de la demande du peuple américain. C'est le cas depuis Roosevelt. Ceci explique pourquoi le président Roosevelt, dans ses derniers mois au pouvoir, alors qu'il était malade, pensait qu'il était important de rencontrer le roi d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ibn Saoud.
Alors, sur le retour de la conférence de Yalta, le 14 février 1945, le président Roosevelt fait stopper son navire, le Quincy, près du canal de Suez. Il a rendez-vous avec le roi d'Arabie, Abdelaziz Ibn Saoud. Rien ne sera signé. Simplement, on réaffirme l'accord de 1936 qui ouvre les portes de l'Arabie aux pétroliers américains. En échange du pétrole, le roi exige protection pour son pays et de l'or, beaucoup d'or.
Et justement, cette obsession américaine aura, elle aussi, beaucoup de conséquences. Et on n'a pas encore parlé de la France, Mathieu Ozano. On se retrouve juste après le flash d'info. À tout de suite.